Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Alors, c'est parti, on va commencer aujourd'hui, dès à présent, la série d'interviews que je vous ai promis avec des spécialistes de la posture qui vont nous aiguiller sur le lien entre posture au quotidien et performance cognitive. Il m'a semblé juste de commencer cette série d'interviews par mon échange avec un ostéopathe, donc de fait avec un spécialiste de la posture et de tout ce qui est trouble musculo-squelettique dû à une mauvaise posture au quotidien. Et j'ai eu le plaisir de recevoir sur mon podcast pas n'importe lequel des ostéopathes, mais un ostéopathe qui est un confrère à moi en quelque sorte, car lui également, tout comme moi, est podcasteur. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Jérôme et il est l'animateur du podcast Biomécanique Podcast. Un podcast où il interviewe chaque semaine des sportifs et des athlètes principalement pour parler de leur carrière, de leur entraînement et de leurs conseils. Alors, pourquoi avoir invité Jérôme sur mon podcast dans cette série consacrée à la posture en lien avec la cognition ? La réponse, encore une fois, tombe sous le sens. En tant qu'ostéopathe, Jérôme, à nouveau, s'y connaît parfaitement en posture. Et surtout, il s'y connaît sur les conséquences sur la santé d'une mauvaise posture prolongée, telle que, par exemple, comme on en a parlé ensemble la semaine dernière, telle que la posture assise durant des heures et des heures chaque jour de la semaine. Et chose encore plus intéressante avec Jérôme, qui fait de cet invité un invité idéal pour le podcast, c'est que son cabinet est situé précisément dans une zone d'affaires. Donc, autrement dit, son client type, c'est qui ? C'est un cadre, c'est un manager, c'est un directeur d'entreprise ou encore c'est un entrepreneur, tout comme vous qui m'écoutez chaque semaine. Vous allez donc découvrir dans ce podcast les conseils personnalisés de Jérôme pour corriger votre posture au quotidien et pour vous éloigner de tout ce qui est déséquilibre et blessure, ce qui est très important, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour exprimer pleinement vos compétences. En effet, car comme je le dis très régulièrement, le but premier du cerveau, c'est lequel ? C'est d'assurer votre survie. Et qui dit une mauvaise posture, dit diminution pour le cerveau des chances de survie. Donc forcément, par ricochet, le cerveau, quand il est un peu en situation de stress dû à un manque de chances de survie, il va diminuer les capacités cognitives. Car ce qui est à la base de la base pour survivre, c'est la bonne posture. C'est la capacité à se mouvoir efficacement, à tenir debout et à être en place en cas de danger. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir dès à présent mon échange avec Jérôme. Ah si, pardon, petit oubli de ma part, désolé. J'ai récemment rééchangé avec Jérôme et il m'a dit qu'il vous offrait, à vous les auditeurs du podcast, un bon de 100€ de remise sur un programme qu'il vient tout juste de sortir. Un programme spécialement destiné aux sportifs et aux sportifs qui ont des douleurs aux épaules et qui veulent apprendre, par eux-mêmes, à identifier la cause de leur douleur pour ensuite la corriger, au travers d'exercices simples, efficaces et rapides à réaliser. Vous trouverez toutes les informations concernant ce programme, bien entendu, en description de ce podcast. Allez, maintenant, je vous laisse. Bonne écoute à vous. Et sachant que le code de réduction, parce que là encore j'ai oublié, désolé, le code de réduction est NeuroPerformer 100. Donc NeuroPerformer comme le titre du podcast et 100 en chiffres. Vous trouverez encore une fois tous les éléments en description. Bonne écoute. Eh bah, ben, salut Jérôme.
Salut Jérémy.
Comment vas-tu déjà pour commencer ?
Eh bien, ça va très bien. Merci pour cette question. Et toi, comment tu vas ?
Bah, très bien, on le demande pas assez, je pense.
Et oui, mais
le contexte actuel est un peu compliqué.
Et c'est ça,
on est assez loin, toi et moi, parce que tu es au Canada.
Ouais, exactement. Mais je te pose la question parce que souvent sur les podcasts comme ça, c'est j'imagine qu'on te le pose pas assez parce que c'est toujours c'est à sens unique. Donc là, je te demande sur ton propre podcast, comment tu vas, Jérémy? Comment ça va en cette période?
Ça va parfaitement bien. Il fait très chaud, comme tu peux le voir. Toi, je sais qu'il fait très froid. Il fait moins 6 degrés, d'après ce que tu m'as dit chez toi. Donc, on a environ quasiment plus de 30 degrés d'écart, toi et moi. Je suis mieux de mon côté que du tien.
Je tiens à préciser. Bien le froid, pourtant. Je précise quand même, c'est mars est toujours comme ça ici. Hein. Je suis à Montréal, donc ça varie. Les températures, elles grimpent et puis elles descendent jusqu'à que le printemps arrive, l'été arrive. Donc, vous inquiétez. Enfin, bon, les frontières sont fermées, le tourisme n'existe pas en ce moment. Mais pour ceux qui veulent venir visiter le Québec, venir à Montréal, c'est pas tout le temps comme ça, hein, évidemment.
Et c'est une très belle ville, je confirme.
Tu as déjà été ?
J'y étais, ouais. J'y étais il y a déjà 3 ans en arrière. J'ai mangé une poutine un peu trop copieuse. Et ouais. Je m'en souviens encore.
Le problème, il y a un souci, c'est que les touristes, parfois, ils mangent une poutine. Et après, ils vont au Mont-Royal. C'est sur la montagne, donc tu marches à peu près trois quarts d'heure, une heure. Et c'est pas du tout un bon deal. Faut pas le faire dans cet ordre-là. Faut le faire à l'opposé.
Je l'ai fait sur des jours différents, donc ça va. En tout cas, ma compagne est enceinte, on a fait le Mont-Royal. Elle a quelque peu galéré à monter les marches. C'était quand même pas mal de marches à monter.
Ouais, mais c'est beau une fois là-haut, là. T'as tout le belvédère. Putain, on est sur un podcast. on est sur un podcast de géographie.
Ouais. C'est ça. Bon, alors si je t'ai invité aujourd'hui, en tout cas, c'est toi qui m'as contacté à la base, mais si on est ensemble aujourd'hui plutôt, c'est pour parler un peu de ton métier de base, qui n'est pas podcasteur, mais qui est ostéopathe. Parce qu'actuellement, je fais une série de podcasts sur la posture et sur le lien entre la posture, la santé et tout ce qui est cognition et motivation au travail. Et en tant qu'ostéopathe, toi déjà, je pense que tu vois pas mal de patients passer au quotidien. Mm-hmm. Parce que sinon, d'ailleurs, tu n'exercerais plus, je pense. Tu aurais déjà fermé. Et du coup, ce que tu peux me dire rapidement, donc dire à moi ainsi qu'à mes auditeurs, si tu vois des pathologies propres aux personnes qui sont régulièrement assises, notamment les cadres et les managers, qui passent soit leur temps assis au bureau, soit leur temps assis en transport en commun ou en voiture. Est-ce que ces gens-là ont des pathologies un peu particulières que eux ont seulement et que les autres n'ont pas particulièrement ?
Alors ouais, ça c'est intéressant. Dans une des cliniques dans laquelle je travaille ici à Montréal, donc qui est au Vieux-Port, il y a surtout une population... Alors là, les bureaux sont fermés, donc c'est un petit peu plus éclectique. Mais habituellement, il y a beaucoup de bureaux, c'est un peu le quartier d'affaires. Ce qui fait que régulièrement, en consultation, il m'arrive de voir des personnes qui sont des travailleurs de bureau classiques, tu vois. Donc ça, pendant les 2 dernières années, ça m'a permis de voir les types de problèmes que pouvaient avoir ces gens-là, qui passent beaucoup de temps au bureau, beaucoup de temps en position assise. Même si aujourd'hui, c'est un peu plus éclectique, j'ai de toute façon, dans les gens qui viennent consulter, il y a 100% de télétravail. Donc, si tu veux, tu n'as pas besoin d'être un travailleur de bureau à l'extérieur pour avoir pour développer les mêmes problèmes, parce qu'aujourd'hui, on est quasiment tous devant un ordinateur en train de travailler. Et il y a des récurrences, il y a des choses qui reviennent. Alors, en termes de pathologie, il faut savoir que le terme pathologie signifie une maladie, hein, c'est-à-dire un diagnostic. Il faut savoir qu'en tant qu'ostéo, on n'est pas habilité à donner un diagnostic, donc je ne vais pas pouvoir te dire, par exemple, moi je diagnostique ça, je diagnostique ça. Par contre, il y a des choses qu'on retrouve.
Des récurrences, du coup.
Ouais. Alors souvent, quand on est face à un ordinateur, quand on travaille sur un fauteuil à un bureau, on est souvent penché en avant. Et la colonne vertébrale, elle est faite de 3 courbures. En bas, c'est la courbure lombaire qui est une lordose. On est creusé en bas. Au milieu, on a une courbure qui la syphose dorsale qui est un petit peu ronde. Et au niveau des cervicales, on a une 3e courbure qui est une courbure lordosante également. Et celle qui m'intéresse en particulier pour ces gens-là, c'est la courbure dorsale qui, souvent, lorsqu'on est devant un ordinateur, elle va être de plus en plus... cette courbure va être exagérée. C'est-à-dire qu'on va avoir le dos de plus en plus rond parce qu'on va être penché en avant, les bras vont être penchés en avant, les mains vont être... la concentration va être en face. Surtout si... Alors là, bon, j'ai pas un bon exemple parce que mon ordinateur, il est pas à bon niveau. Mais si en plus l'ordinateur, l'écran, il est un petit peu bas ou il est pas hyper bien ajusté par rapport à sa taille et par rapport à l'ajustement de sa chaise, on va être très penché en avant. Et pour faire simple, le dos va être de plus en plus rond, les épaules vont être vers l'avant. Donc ça, c'est la posture globale qui va se dégager. Et puis évidemment, comme on est en position assise, il va y avoir une flexion des hanches accrue et maintenue. Donc, les soucis qu'on peut voir, généralement, c'est des douleurs en bas du dos dues à une raideur de la zone lombo-pelvienne, très souvent dues à cette hyperflexion de hanche maintenue tout le temps et les raideurs des fléchisseurs de hanche. Je pense au psoas. Je sais pas si tes auditeurs ils sont trop faits de l'anatomie ou des choses un peu.
Alors, je sais pas tout ce qui est psoas, mais carré des lombes, etc. Je ne pense pas, donc peut-être précise un peu ce que c'est. On finit déjà ton café, bien sûr, ouais. Parce qu'il y a une priorité. Et dis-nous ce que c'est après.
Donc, le psoas, c'est un muscle qui vient s'insérer à l'avant des lombaires, c'est-à-dire des vertèbres en bas du dos, pour essayer d'être hyper simple. Il s'insère à l'avant des lombaires. Et au niveau des fosses iliaques, donc du bassin, hein, c'est difficile à l'audio d'expliquer exactement, enfin simplement. Et ensuite, les muscles viennent s'insérer au niveau des hanches, c'est-à-dire sur le haut de l'humérus, qui est l'os de la jambe. Et c'est des muscles qui permettent la flexion de hanche. Par exemple, quand on lève le genou, voilà, le psoas intervient, c'est une flexion de hanche. Et ces muscles-là, lorsqu'on est assis, en fait, ils sont en position raccourcie. Tu vois, quand on est assis, le fémur, il est fléchi, donc le muscle, il est raccourci. Et si on reste longtemps dans cette position, c'est un petit peu comme si on enraidit le muscle, on le laisse en position raccourcie, il perd de sa souplesse, il perd de son étirement, entre guillemets. Et en se raidissant, lorsqu'ensuite on va se lever, par exemple, et ça, c'est très schématique, donc c'est vrai que c'est pas facile à expliquer en podcast. Mais ça va amener des troubles de la posture parce qu'un psoas qui est trop raide, qui est trop raccourci, il va engendrer une rotation du bassin lorsqu'on est debout parce qu'il va tracter le bassin en quelque sorte. Il va augmenter certaines mauvaises courbures. Et donc déjà, voilà, pourquoi rester assis trop longtemps et au bureau et surtout dans une mauvaise position et puis être trop statique peut engendrer des problèmes de dos, des lombalgies, les classiques lombalgies. Et douleurs en bas du dos. Il y a aussi les douleurs au milieu du dos, à force d'avoir le dos complètement courbé en position de syphose accentuée, ça va donner des tensions au milieu du dos, entre les omoplates. Les épaules vont être vers l'avant, ce qui peut donner également des tensions sur les épaules. Alors, le classique aussi, c'est... Mais ça, c'est dû à la fois à la posture et à la fois à la concentration, la tâche dans laquelle on est. Et si la concentration plus le stress. Si tu veux, plus tu vas être concentré et plus tu vas avoir de la pression, plus il y a des muscles qui vont s'activer. Et je pense aux trapèzes, aux élévateurs de la scapula, qui sont des muscles qui se situent entre les omoplates et les cervicales, qui vont être tendus et de manière constante et qui vont finir par créer des raideurs et créer des adhérences. Et ensuite, tu te sens raide, tu as l'impression que ton cou, il est douloureux, il est dur, tu as envie de t'étirer. Enfin, la classique raideur au niveau du cou et des épaules, quoi.
Les trigger points aussi qui vont avec en général au niveau des omoplates ou autre.
Ouais.
Ouais, ça en fait partie aussi. Ok.
Ouais, ça, il y en a plein parce que j'essaie de tout donner un petit peu comme ça. Il va y avoir les douleurs de cou qui vont venir ensuite à la base du crâne, tu vois, en arrière de la tête, à des maux de tête également. Bon, ça veut pas dire que si tu travailles toute la journée assis, tu vas développer tout ça. Il y en a, en fait, ils ont aucun problème. Il y en a, ils ont des douleurs de dos, des douleurs de cou, des douleurs d'épaule. Il y en a, ils ont juste des douleurs d'épaule. Ça dépend des personnes, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, plein de paramètres, comme d'habitude. Mais c'est moi ce que je retrouve et ce que j'ai retrouvé le plus. Et si tu veux, alors il y a la position assise, mais au-delà de la position assise qui peut provoquer tous ces troubles de la posture et donc ses conséquences physiologiques. Il y a aussi le fait de ne pas faire d'activité assez en contrepartie. Tu vois ? Parce qu'en soi...
Assez régulièrement aussi, je pense.
Assez régulièrement.
C'est d'être actif, mais la personne qui est assise toute la journée durant 5 jours sur 7 et qui court un peu le week-end, c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Il faut être actif un peu tous les jours, il faut marcher tous les jours, ouais. Bouger un peu tous les jours, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, faire un peu de vélo, mais pas uniquement se dire « Ok, du lundi au vendredi, je suis assis sur mon canapé, sur ma chaise, au bureau. » Et le dimanche, je fais une demi-heure de footing. On est d'accord, ça suffit pas.
Non, ça suffit pas. Alors c'est mieux que rien parce que y en a, ils font pas tout ça. Et bon, c'est pas le top quoi. C'est pas le top du tout. Donc c'est mieux que rien. Je conseille toujours d'au moins de faire. Alors parce que surtout en télétravail en ce moment. Je vois pas mal de gens qui sont toute la journée chez eux, qui travaillent devant l'ordinateur, avec une place qui est pas hyper adaptée, c'est-à-dire ils ont pas un bureau, ils ont pas une chaise. Parfois, ils ont la chance d'avoir eu leur fauteuil de bureau rapatrié chez eux par l'entreprise. Donc ça, c'est bien. Mais généralement, c'est pas du tout optimal, c'est pas adéquat, quoi. Et souvent, pendant une heure dans la journée, ils sortent pour aller faire un tour. Alors ici, à Montréal, il n'y a pas de confinement. Les magasins sont ouverts. Les non-essentiels ont réouvert depuis quelques temps. Donc, tu peux faire des trucs quand même, tu vois. Mais j'imagine qu'en France, surtout pendant la période qui va suivre là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, les gens vont faire des tours juste pour faire un tour, pour s'aérer l'esprit. Je sais pas, avec l'attestation. Enfin bon, j'en sais rien. Donc, la plupart des gens, ils essayent de faire au moins une petite heure de marche par jour. Mais c'est vrai que ça va pas suffire. Enfin, c'est mieux que rien, parce que ça permet déjà de se vider la tête et puis de faire bouger un peu le corps. Mais ça va rarement suffire, parce qu'en fait, en une heure de marche, surtout qui n'est pas une activité hyper complète, en tout cas au niveau du haut du corps, tu vois, ça va pas te renforcer cet intermus, ça va pas te dérédire. Ça compense pas du tout toute ta journée que tu vas passer assise en hypersyphose, avec les épaules vers l'avant, avec les fléchisseurs de hanches qui sont raides, qui sont enraidis, ça va pas suffire, tu vois. Donc si c'est en plus de pas bouger de la semaine et puis juste aller faire du sport le dimanche, aller courir, non, c'est bien, c'est mieux que rien, tu vois. Faut vraiment pas décourager, faut encourager, mais faut peut-être orienter à faire des choses un peu différentes. Et en réalité, c'est pas si compliqué. Il y a pas besoin forcément d'aller faire 36 000 exercices, de se prendre la tête, d'aller se trouver un programme de fou pour faire de l'entraînement chez soi, même si je le recommande. Mais juste, en fait, espacer ces plages de travail avec une mobilisation, avec quelques mouvements de déraidissement, de mobilité, mais très simple, ou de réactivation musculaire. Parce que par exemple, lorsqu'on est complètement vers l'avant, courbé, on est très sur la chaîne antérieure, les chaînes musculaires antérieures, les pecs, les abdos, tout ça, c'est affaissé. Et enfin, les abdos. Les abdos sont plus en position raccourcie, ils sont pas en position de travail. Mais par contre, de l'autre côté, au niveau du dos, les muscles sont pas du tout activés. Tu vois, donc le fait de se lever par exemple toutes les heures, toutes les deux heures, et faire 2-3 mouvements pour réactiver ces muscles-là et corriger la posture, bah, c'est déjà pas mal.
De mon côté, c'est ce que je fais effectivement, je contracte un peu les omoplates. Tous les 3 quarts d'heure, quasiment une heure, je pense. Aussi, je fais une rotation des épaules externes pour compenser un peu ce mouvement justement vers l'avant constamment. Je fais des mouvements de nuque aussi de mon côté, donc sur le côté avant-arrière, des tours. Et quand j'ai le temps aussi, plutôt quand je prends le temps pour être plus transparent, je fais un peu de rouleau de massage en plus. Pour tout ce qui est fessier notamment, parce qu'aussi la position assise, on l'a pas dit, mais provoque une amnésie des fessiers.
Ouais.
On a de plus en plus de mal, nous, en tant qu'humains, à recruter nos fessiers qui pourtant sont des muscles très puissants et essentiels pour courir, marcher, pour bouger même tout simplement au quotidien.
Oui, oui, t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est bien cette, l'idée de l'amnésie des fessiers. Ça, c'est un truc qui a pas mal parlé Rudy Coya. Je sais que tu l'as reçu sur le... Non, oui. Non, tu l'as pas reçu. T'es passé sur le podcast.
Si,
tu l'as reçu
je
aussi.
Je suis passé et je l'ai reçu. On a fait les deux, on a fait les retours ensemble. Ouais.
Donc lui, il en parle régulièrement de l'amnésie des fessiers. C'est vrai que on est tout le temps assis sur son cul, quoi. Donc forcément, on écrase les fessiers, on les utilise moins et on fait de moins en moins d'activités qui demandent une extension de hanche, puisque par définition, les fessiers font de l'extension de hanche, qui est l'inverse de la flexion de hanche. Et notamment le grand fessier, le moyen fessier fait aussi de l'abduction, donc qui permet de lever la jambe sur le côté. Ça, qui est un mouvement qu'on ne fait que les gens qui ne sont pas sportifs ne font quasiment jamais. Donc le fait d'être assis dessus, de ne pas les utiliser et d'être toujours en flexion et jamais faire d'extension de hanche, forcément les fessiers s'enraidissent certes, mais se diminuent de force, diminuent de volume, sont moins présents. Et ça a un gros impact sur la posture, en fait, parce que des fessiers qui sont moins forts que d'autres muscles opposés, forcément, ça déséquilibre la posture du bassin. Et alors ça, c'est une bonne idée. Et pour les activer, des extensions de hanches, si vous avez des escaliers chez vous ou que vous avez une marche, montez les escaliers, faites 2-3 allers-retours de 2-3 étages. Je ne sais pas si vous habitez dans un immeuble, surtout en période de confinement, là où on ne peut pas trop sortir, faire son sport, que les salles de sport sont fermées. Si vous avez des escaliers pas loin, faites des montées de marche, quoi. En essayant de garder bien le bassin droit, de garder toujours la colonne lombaire droite et en légère courbure. C'est, encore une fois, c'est vraiment difficile d'expliquer en podcast, mais essayez de garder le dos droit. Ne montez pas les escaliers en courbant le dos, parce que ça, c'est, ça peut se faire pour essayer de compenser le fessier qui n'a plus l'habitude de travailler. Mais ça va réactiver les fessiers, ça va faire de l'extension de hanche, et puis ça peut être pas mal, déjà.
Oui, ça fait un peu de cardio aussi, c'est bête à dire, mais 3-4 allers-retours dans les escaliers, ça fait toujours du bien. Et c'est mieux que rien, comme on l'a dit tout à l'heure.
Ouais.
C'est mieux que l'ascenseur, en tout cas.
Ouais, forcément, c'est mieux que l'ascenseur. Bon, alors après, on est toujours... tu vois, moi, j'ai un escalier ici, j'ai l'ascenseur, je prends toujours l'ascenseur. On est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Mais je m'entraîne en salle de sport, j'ai fait une séance jambes hier... ma deuxième séance jambes depuis l'ouverture des gyms, c'est assez. On va pas tergiverser, mais c'est assez incroyable que les gyms aient rouvert ici. J'espère que ça sera le cas pour vous. Ouais.
T'as bien de la chance. Moi, je fais du squat avec des haltères dans les mains. Je fais des séries de 50 deux fois par semaine.
Bah, c'est bien.
C'est chiant. Pour être en... Ouais, c'est bien. Mais il y a beaucoup moins d'engouement. T'as plus de monotonie. C'est moins challengeant aussi.
Exactement.
Après, j'ai fait un peu de dos, etc. Des élastiques. Donc, on a parlé un peu ensemble de Christophe Thériault précédemment, qui propose des bonnes solutions, d'ailleurs, je pense. Même pour les gens qui nous écoutent, s'entraîner aux élastiques, c'est une très bonne chose. Parce qu'il n'y a pas d'à-coups. Comme tu sais très bien, le mouvement est réellement rectiligne, quasiment, en quelque sorte. Et en plus, il n'y a pas cette notion d'ego qui rentre souvent en compte, surtout quand on est un homme, où on veut mettre toujours plus de poids. Un élastique, c'est un élastique. Au pire, tu t'écartes, mais quand tu ne peux plus le tirer, tu ne peux plus le tirer, en fait. Et fatalement, tu ne vas pas te blesser à cause de ça. Et c'est donc l'avantage de l'élastique sur le poids ou sur l'haltère. Après, si Rudy entend ça, je pense qu'il va me faire un petit mail assez salé parce que lui, les élastiques, c'est pas ce qu'il préfère. Il préfère les haltères. Mais bon, ça reste quand même plus intéressant aujourd'hui, je trouve.
Mais en fait, ça dépend à qui on s'adresse. Et effectivement, si t'es là pour prendre du muscle maximum et que t'es dans l'objectif bodybuilding ou entraînement à la salle, c'est vrai que les élastiques vont peut-être à un moment donné trouver une limite, tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ce qui est bien avec l'élastique, c'est que effectivement, la courbe de résistance n'est pas la même que par rapport à un poids, et surtout tu peux changer la courbe de résistance, sans parler forcément de choses trop compliquées de biomécanique, mais un poids, il est utile parce qu'il y a la gravité, en fait. C'est-à-dire que le poids, il est toujours attiré vers le bas, donc c'est à partir de ça que tu vas créer, les exercices, que tu vas créer les mouvements, c'est toujours par rapport à cette gravité. L'élastique, tu peux l'accrocher en haut, tu peux l'accrocher au milieu, et tu vas changer là où la difficulté vient, là où la résistance vient, donc ce qui peut être pas mal. Et justement, en parlant de ça, ouais, Christophe Carillon, il en parle beaucoup. Pour tous ceux qui sont des travailleurs au bureau, qui sont pas forcément des gens qui s'entraînent en salle, qui sont passionnés de musculation, de bodybuilding, et même ceux qui le sont passionnés de bodybuilding, hein, je leur recommande d'aller regarder ce que fait Christophe Carillon, parce que il a de super programmes de mobilisation, de renforcement, de mobilité articulaire contrôlée.
D'automassage aussi.
D'automassage, d'étirement, de correction de posture. Il a de super trucs. D'ailleurs, j'en ai parlé avec lui donc récemment, puisque j'ai eu la chance de l'avoir. Il va passer sur le podcast Biomécanique.
Il sort quand ton épisode avec lui?
Au moment où on se parle, là, Jérémy, il va sortir d'ici 5 semaines, je pense. D'ici un mois. Un mois.
5 semaines. Ok, ouais. Donc, le tien sera déjà sorti du coup.
Ok. Bah...
J'aurais fait peut-être un mail par rapport à ça. Tu m'enverras le lien du coup. Par email de ton côté, et puis j'aurais pour communiquer dessus aux personnes qui sont intéressées.
Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien. Moi, je lui ai posé plein de questions. Hein. On va pas revenir sur la discussion que j'ai avec lui parce qu'elle elle dure plus de 2h30. Non, oui, c'est un podcast un peu long que je fais. Mais il explique justement l'entraînement entre guillemets fonctionnel, quel est l'avantage que ça va avoir, quelle est la limite d'un entraînement musculaire classique et pourquoi revenir à des exercices un peu polyarticulaires avec des mouvements de. Avec des élastiques, par exemple, d'explosivité, j'ai perdu le mot exact, mais tout ça va avoir un impact positif. Et puis, voilà, pour tous ceux qui travaillent au bureau, ça peut être hyper intéressant d'aller regarder ces livres qu'il fait et d'avoir des programmes pour justement rééquilibrer un peu sa posture.
Non, puis, chose bête aussi, chose intéressante plutôt que les élastiques, c'est qu'on peut les fixer à une porte rapidement, on peut être à son bureau, tous les trois quarts d'heure, on se met une alarme, on se lève, on fait 4-5 exercices. Ça fatigue pas, on transpire pas, on se rassoit, ça fait du bien, quoi. On s'étire un peu le dos, etc. Et ça fait du bien, très rapidement, les bénéfices sont là. Plutôt que faire une heure de course le week-end, autant faire. Je dis pas que c'est pas bien, encore une fois, on l'a dit ensemble précédemment, c'est très bien de le faire. Mais compléter ça avec un peu de mobilisation, tous les jours, au quotidien, pour contrecarrer un peu les effets négatifs de la position assise. Et là, c'est intéressant.
Exact. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a plein de trucs à faire. Pour essayer de donner des exemples un petit peu plus concrets, faire de l'extension thoracique, l'extension dorsale. Donc, comme on est beaucoup en position vers l'avant, Ouais. Donc en syphose lombaire, c'est-à-dire une flexion de la colonne vertébrale. Essayer de temps en temps de se lever, ou même assis, mais en tout cas prendre conscience de faire une pause et d'essayer de faire de l'extension thoracique. Donc c'est amener le dos comme si on voulait amener le dos en sens inverse, pour parler simplement. On peut mettre les bras au-dessus de la tête, sur les côtés, pour améliorer l'amplitude. Le fait de lever les bras comme ça, essayer d'aller chercher très haut, ça permet d'étirer le grand dorsal qui est en position de bureau, il est raccourci, il est
désactivé complètement.
Il est désactivé. Donc aller chercher un peu à étirer le grand dorsal, à faire de l'extension thoracique. Alors il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est comme on est beaucoup en position assise, le diaphragme est un petit peu comprimé. Alors le diaphragme, c'est le muscle de la respiration qui s'insère au niveau de la cage thoracique, au niveau des vertèbres, au niveau de la plèvre évidemment, et qui va s'abaisser à l'inspiration et va remonter à l'expiration. En réalité, on pense que c'est quand on inspire, le diaphragme s'abaisse, mais c'est plutôt parce que le diaphragme s'abaisse que l'on inspire. Okay. En fait, le fait, et ça c'est automatique, hein, le truc moteur qui se trouve dans le tronc cérébral, on ne le commande pas, ça fait partie des choses qui en fait sont de l'involontaire. Le diaphragme, il bouge, il s'active sans qu'on y pense, parce que sinon on arrêterait de respirer.
Voilà, c'est terrible, sinon on dort, on respire plus, on meurt.
Exactement. D'ailleurs, petite anecdote marrante, je sais pas, c'est qu'il est impossible de mourir étouffé. Je sais que j'en ai parlé récemment, je crois que c'était avec Christophe, je crois. Il est impossible de mourir en retenant sa respiration, parce que le corps, au bout d'un moment, automatiquement, il va créer une inspiration, il va activer le schéma moteur.
Ouais. Donc, comme pour une noyade, du coup, c'est pas le fait de pas respirer qui nous tue, c'est le fait d'ingérer de l'eau, et de respirer de l'eau qui nous tue. C'est parce que fatalement, on va respirer à un moment donné, c'est obligatoire.
Exact. Et puis d'ailleurs, c'est avec Christophe que j'en parlais, parce que on avait digressé un peu sur les sportifs spécialistes dans l'apnée qui justement des fois leur inspiration se déclenchait au bout de plusieurs minutes de manière automatique et qui en fait certains étaient morts noyés. Bref, où c'est que j'allais avec ça? Non, je parlais du diaphragme. En fait,
c'est ça.
Le fait d'abaisser le diaphragme de manière automatique, ça crée une pression négative dans le poumon et ça fait rentrer l'air. Et puis, lorsque on relâche le diaphragme et qui fait comme un mouvement de piston et qui remonte, en fait, ça crée une pression positive dans les poumons par rapport à la pression atmosphérique, ce qui fait que l'air est chassé des poumons pour aller vers l'extérieur. Et ce diaphragme, donc, il a vraiment ce travail d'abaissement et d'élévation et qui permet la bonne respiration. Et lorsque on est en position assise pendant pas mal de temps, ce diaphragme, il a de moins en moins de place. L'amplitude de mouvement, en fait, elle est réduite. Et on perd de plus en plus la conscience ou le bon mouvement du diaphragme. Alors, heureusement, le corps est très bien fait. Il va pouvoir mettre en place des systèmes de compensation, comme par exemple la cage thoracique, le haut, les clavicules, les scalènes, enfin, tous ces muscles-là qui peuvent prendre le relais sur la respiration. Et on va avoir ce qu'on appelle une respiration thoracique, ce qui n'est pas une bonne respiration. C'est une respiration compensatrice du diaphragme qui ne bouge pas correctement. Donc c'est pour ça que faire des exercices de respiration, de remobilisation un peu de la cage thoracique basse, ça va permettre de redonner de l'amplitude au diaphragme qui va pouvoir faire son travail correctement par rapport à tous les autres, et essayer de relâcher. Mais c'est ça aussi, hein, parce que le diaphragme bouge mal, donc les systèmes de compensation se mettent en place. Je pense au trapèze, au scalène, aux muscles intercostaux du haut, on en a plein d'autres ici, au niveau de la nuque et de l'avant de la nuque, qui vont beaucoup travailler pour respirer, ce sont les inspirateurs accessoires, qui vont se mettre en tension et vont créer des douleurs au niveau cervical et au niveau du cou. Donc voilà en quoi le fait de rester assis et d'avoir une mauvaise amplitude diaphragmatique va créer des problèmes au niveau du thorax haut et cou.
Et en plus, quand on respire par le haut du corps, comme tu l'as très bien dit, on crée une hyperventilation. En général, on respire avec une fréquence beaucoup plus élevée que par le diaphragme.
Exactement.
Et moins profonde, ce qui stimule le système nerveux sympathique.
Et ce qui te met dans un état de stress chronique.
Du stress et en plus une baisse des capacités cognitives derrière. Parce que le corps étant en situation de stress veut allouer son énergie à la résolution du problème et l'alloue plus du coup au cerveau et à la réflexion, à la mémoire et j'en passe.
Voilà.
Donc, tout ça est vraiment lié, quoi.
C'est
tout
ça
est vraiment lié, c'est
puis,
impressionnant.
C'est exactement là où je voulais en venir. C'est tu fais moins travailler le diaphragme, ton respiration, elle est beaucoup moins, enfin ta respiration est beaucoup moins effective. On sait que le cerveau, ce qu'il a besoin, c'est d'oxygène pour être en pleine capacité. Pas que le cerveau et tout, mais l'oxygène.
Tout, il consomme lui seul 20% de l'oxygène consommé, donc.
Ouais. Donc c'est forcément t'achemine moins d'oxygène dans le cerveau, tu relâches moins de dioxygène et t'es dans un état... voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas une étude spécifique qui traite là-dessus, mais beaucoup en ont parlé. Et ça se voit, quoi. Je veux dire, fais d'exercice d'inspiration et c'est pas besoin forcément d'être dans la surproductivité de ton travail. Lève-toi, fais d'exercice d'inspiration où tu vas par exemple mettre la main sur ton ventre, juste en dessous des rampes chondrales des dernières côtes, et puis tu vas essayer de te concentrer, de faire une inspiration en poussant ta main vers l'extérieur comme si tu voulais faire pousser ton ventre vers l'avant en essayant de garder le haut du thorax le plus bas possible, sans avoir les épaules qui montent, pour faire simple. Fais ce travail-là régulièrement. Je m'adresse aux auditeurs. Hein. Faites ce travail-là régulièrement. Levez-vous, faites ce truc-là. Vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir des tensions qui vont se libérer, qui vont se relâcher au niveau des épaules. Le stress va diminuer parce que d'avoir moins d'oxygène dans le sang et d'être tense comme ça, là, d'être contracté, ça stresse. Et là, une petite dizaine de fois cet exercice, ça relâche la pression, ça relâche le stress. Et puis plein d'autres choses. Hein. Je suis en train de lire un bouquin sur les énergies. Alors, je suis pas un grand fan des trucs vaudou et tout ça, mais je lis un bouquin sur les énergies qui circulent dans le corps avec la respiration et tout. Et il y a pas que la productivité, il y a pas que le stress. Il y a plein d'autres trucs sur quoi ça agit, quoi.
Et idéalement, faites ça dehors en plus. Comme ça, un peu d'air extérieur, un peu d'air frais, une exposition au soleil, à la lumière. Donc, un rééquilibrage des rythmes circadiens et c'est super, quoi. Un peu de marche en plus, un peu d'étirement.
Ouais.
Ça, toutes les heures et demie, toutes les heures, et c'est parfait.
Ouais, bah,
c'est une très bonne chose, c'est déjà un très bon pas en avant, quoi.
Il y a des choses à faire. Mais très souvent, c'est pas compliqué. C'est simple. C'est juste que faut le savoir. Faut le savoir. Voilà.
Faut y penser. Ouais. Il faut y penser aussi.
Faut y penser. Faut se mettre un post-it.
Ou une alarme.
Ou une alarme.
Ou sinon, effectivement, Ouais. Bah, ce que je fais, moi, je bosse en mode Pomodoro, donc je mets des sessions de 50 minutes de travail, et toutes les 50 minutes, grosso modo, je fais mes étirements.
Et ben oui, voilà.
Et sinon, effectivement, les post-it, c'est pas mal. On met 3 post-it devant soi, il faut qu'à la fin de la journée, il n'y ait plus de post-it. Dès qu'on fait l'activité, on enlève un post-it, on le jette, et à la fin de la journée, plus de post-it sur le bureau.
Voilà, et à la fin de l'année.
Et au moins, comme ça, à la fin de l'année, on économise des arbres, ou pas.
c'est ce que j'allais dire, il y en a qui vont gueuler.
Il y a le bémol. Après, ça coûtera moins cher à la sécu aussi, donc faut faire un peu le pour et le contre.
Ah,
ça, le papier, c'est bien recyclé, donc.
Faut calculer combien, qu'est-ce qu'on y gagnerait, qu'est-ce qu'on y perdrait.
C'est ça. Le livre dont tu parles, comment il s'appelle?
Je pense que les gens vont rire, enfin rire, je sais pas. C'est, il est en anglais, ça s'appelle The Way of the Superior Man.
Le chemin de
l'homme supérieur. Mais alors, c'est dommage parce que je peux pas aller chercher parce que là, j'ai le fil. Mais non, c'est un livre hyper intéressant sur les relations humaines, mais surtout les relations hommes-femmes, sur comment le comportement masculin. Ah, c'est The Way of the Superior Man, c'est vraiment comment s'élever soi-même en fait pour être meilleur.
Donc le côté un peu nietzschéen du coup de la démarche du surhomme au final.
Ouais, mais le mec, c'est un fanatique de l'amour, quoi. Tu vois, le mec, il est dans l'amour total, quoi. Il répète love, love, love. Alors, je suis pas tout le temps fan de ce genre de truc parce que moi, j'aime bien avoir un peu les deux côtés, voir ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais il y a de bons chapitres dans ce bouquin. Il a pas été traduit en français. C'est un pote qui me l'a prêté. Et il parle en quatrième partie, il parle de la respiration et de tout ce qui est les énergies sexuelles, peut-être qu'on ne l'a jamais fait sur le podcast celui-là, mais tout ce qui est les énergies, retenir son éjaculation.
On ne l'a jamais fait.
Pour ceux qui... Alors attends, parce que un expert là-dessus, c'est Jean-Marie Corda, qui est français pour le coup, mais qui n'est plus en France. Que j'avais reçu sur le podcast et ça fait longtemps que je le suis, Jean-Marie Corda, et j'ai retrouvé certaines choses que David Deida du livre The Way of the Superior Man dit, des similitudes avec ce que raconte Jean-Marie par rapport à ses conseils en sexologie ou en sexualité, je sais pas comment on peut dire.
Je connais que des noms, Jean-Marie Corda, et pour
bon, alors,
trois interviews, notamment avec Stan Leloup, mais j'ai jamais trop creusé encore.
Faut que t'ailles écouter le podcast qu'on a fait, c'est l'épisode 37 sur biomécanique, faut que t'ailles l'écouter parce qu'il est assez... Moi j'en suis très content hein, de cet épisode-là, par contre faut avoir l'esprit ouvert, faut pas se laisser choquer facilement, et au-delà de quelques punchlines et cette personnalité assez radical qu'il peut avoir, certaines idées aussi radicales, bon, on peut ne pas être d'accord, C'est quand même hyper intéressant. Et puis ça ouvre l'esprit. Et je sais que j'ai eu de retours récemment sur des gens qui m'ont dit « Ah, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, c'est assez spécial. » Et je pense que c'est exactement l'effet qu'il veut rendre. Et alors, au-delà d'être spécial, c'est qu'il y a plein de choses qu'il dit sur la santé, sur le comportement, qui sont hyper intéressantes. On s'éloigne peut-être un peu du côté de travailleur, mais ça... Ça ouvre à l'esprit sur des choses qui sont pas hyper mainstream et médiatisées.
Non, je suis d'accord, c'est un tout. De toute façon, c'est le but de mon podcast, c'est vraiment élever les gens par rapport à comme quoi on est plus une globalité. Et c'est important d'avoir à l'esprit. Je parle de nutrition, je parle de sommeil, je parle de mémoire. Là où les coachs à l'heure actuelle parlent uniquement de performance, tu vois, par des outils, par des protocoles. Sauf que si t'as pas la base de la base, savoir la nutrition, le sommeil et le sport, en fait, ça sert à rien d'avoir des outils. En fait, tu pourras jamais les exploiter complètement. Donc autant commencer par la base, autant s'ouvrir un peu à tout. Effectivement, des fois ça parle, des fois ça parle pas. Mais au moins on apprend des choses et des fois ça met un peu de temps à être ancré dans l'esprit. Mais quand ça vient, eh ben on se l'approprie, on le met en application et on voit les bénéfices ou pas. Mais au moins on essaie.
Je pense que ouais, mais ça c'est un autre sujet. On pourra en reparler. On pourra reparler sur le podcast qu'on enregistrera ensemble. Parce que j'ai plein de questions sur ça justement.
Ah bah super. Bon, on fera ça ensemble quand je passerai de l'autre côté. Ouais. Du micro, façon de parler, parce qu'on est chacun d'un côté, mais du côté interviewé, non pas intervieweur.
Non, mais oui, précisons que tu passeras sur le podcast biomécanique et on va parler de toutes tes compétences et tout. Moi, j'ai plein de questions sur comment tu vois la performance, comment tu, bah, tout ce que t'as dit, quoi.
La cocaïne, essentiellement la cocaïne,
c'est vrai. Bon, bah, écoute.
Très efficace.
N'enregistrons pas ce podcast, alors nous avons la réponse. Merci.
Pour revenir un peu au sujet du coup de base, donc là on avait un peu le dysfonctionnement au niveau du corps humain induit par la position assise notamment. Qu'est-ce que tu conseilles toi déjà pour commencer? Est-ce qu'il faut passer par les services d'un ostéo pour remettre tout à zéro, les déséquilibres etc, ou est-ce qu'on commence dès à présent à faire quelques gestes de son côté, un peu potentiellement aléatoirement pour voir ce qui nous fait du bien, ou est-ce qu'on fait les deux? Qu'est-ce qui est le mieux? Dans quel ordre on commence?
C'est difficile parce que ça dépend, voilà.
Et bon, on arrête le podcast également.
Non, ça dépend des gens, ça dépend des personnalités, ça dépend du niveau de connaissance. Si vous ne savez pas du tout quoi faire, alors bon, déjà, de un, moi je suis partisan d'être toujours responsable de ce qu'on fait. C'est-à-dire que aller confier tout, à la limite tout son savoir, son programme et ses conseils à une seule personne. Bon, faut vraiment avoir confiance à la personne. Se dire par exemple, ben moi je vais voir cet ostéo, alors ce kiné, parce que j'y connais rien et je lui délègue toutes mes connaissances, il va me donner tout ce qu'il faut et puis moi je m'occupe de rien. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Peut-être que cette personne est très très forte et qu'elle va vous donner de très bons conseils, mais moi j'encourage toujours les personnes à dire allez regarder, tapez des mots-clés sur Google, allez juste vous renseigner sur ce que c'est une posture, qui c'est qui en parle, qui c'est qui est autour de vous dans votre ville. Qu'est-ce qu'il y a comme ostéo dans votre ville autour de vous, comme kiné, regardez un peu son site web, allez peut-être à la bibliothèque, alors bon là c'est fermé, je suis désolé, mais ou bon sur internet, allez regarder qu'est-ce qui se fait en termes de bouquins sur comment améliorer sa posture, etc. Être responsable un petit peu de sa vie, de ses trucs, moi c'est ce que je conseille le plus. Donc ça va dans l'idée de, vous pouvez consulter, mais vous pouvez aussi faire vous-même. Ça dépend du niveau de connaissance. Quelqu'un qui a déjà, ça fait des années qu'il s'entraîne, qui a une bonne connaissance de l'anatomie, de la physiologie, qui a lu 2-3 bouquins, il peut très bien se créer un petit programme, se faire des exercices et aller piocher sur des vidéos YouTube et puis se faire son truc, tu vois, arbitrairement, sans forcément aller consulter quelqu'un. S'il n'y a pas de douleur ou si les douleurs sont légères et qu'il se dit, bah tiens, je vais essayer de faire moi-même. S'il n'a aucune connaissance, qu'il n'a pas envie de faire tout ce travail-là, il peut juste regarder très rapidement quelques exercices et puis aller chez son ostéo. Enfin, soyez maître de votre vie, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu l'idée que je veux faire passer. Mais vous pouvez aller consulter un ostéo qui va vous remettre à zéro, comme tu as dit, là, qui va regarder votre posture, qui va dire, voilà, qui va corriger un peu les déséquilibres, qui va vous remettre dans la mobilité, et qui va vous donner peut-être des conseils de mobilisation, d'exercices qui vont être adéquats. Mais encore une fois, un ostéo ne vaut pas l'autre, non pas en termes de l'un est plus fort ou l'autre est pas fort, c'est que certains vont avoir des champs de compétences qui vont être complètement différents par rapport à un autre. Il y a des ostéos ou des kinés qui sont spécialistes dans le sport ou dans tel sport particulier, d'autres qui vont être plus spécialistes dans des approches un peu plus spirituel, par exemple. Si vous êtes de base un sportif ou un marathonien, par exemple, qui s'est arrêté de faire des marathons parce qu'on est en confinement et qu'il travaille beaucoup au bureau, je sais pas, qu'est-ce qui va plus vous correspondre? Quelqu'un qui a plus cette approche du sport du sport du type endurance, ou alors quelqu'un qui est très spirituel, qui va vous mettre des bougies autour. Je sais pas, je pose la question. Donc c'est aussi en fonction du champ de compétences de la personne, tu vois, un ostéo vaut pas l'un par rapport à vous. Donc ça, c'est aller regarder sur Google, maintenant sur Facebook, j'en sais rien, sur Instagram, il y en a qui ont des ostéos qui ont des trucs sur Instagram. Alors regardez un peu qu'est-ce qui pourrait vous correspondre. Faites 2-3 recherches. On a parlé des bouquins de Christophe Cario. Voilà, je pense que...
Mais du coup, est-ce qu'une personne comme moi, comme j'ai quelques connaissances de base en ostéo, en physiologie, en physionomie, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musculation, ouais, 10-15 ans, je pense, grosso modo, peu importe. Est-ce que je peux, moi, seul, avec mes connaissances, réellement rééquilibrer un déséquilibrage? Par exemple, le bassin, j'ai souvent qu'un des problèmes au niveau des épaules, le carré des lombes au niveau à gauche me fait souvent mal, typiquement. Est-ce que moi seul je peux le faire? Est-ce que je peux identifier le fait que typiquement mon mal de dos vient d'un orteil, toi?
Ça c'est hyper difficile parce que c'est un peu comme est-ce que j'ai besoin d'un coach pour faire mieux? C'est très personnel, je peux pas te donner une réponse oui non, parce que peut-être que tu peux avec des exercices, avec un bon programme de mobilité, corriger ta posture en faisant tous les jours le truc à moyen et long terme, et que t'auras peut-être pas besoin de quelqu'un. Peut-être qu'aussi tu vas mettre des mois, des années à trouver l'origine de ton problème. Et que tu corrigeras jamais vraiment le truc, et qu'il suffit, il te faut un regard extérieur pour mettre le doigt sur ce qui va pas, pour te déjà de un te faire prendre conscience, et puis deux pour te faire gagner des mois ou des années. Mais c'est un peu comme le coach au final, hein, mais que ça soit en business, en tout ce que tu veux, le coach va être là pour avoir ce regard extérieur, pour te pointer ce qui va pas chez toi et que peut-être tu ne peux pas voir toi-même, et puis te faire travailler dessus avec des bons outils, avec des bonnes méthodes. Voilà. Peut-être que toi, tu ne vas pas arriver à avoir des bonnes méthodes ou des bons outils complètement personnalisés par rapport à ta problématique, et qu'un regard extérieur d'un pro, d'un expert, entre guillemets, qu'un expert va te donner, en fait, tu vois. Donc, tout dépend. Évidemment que j'encourage tout le monde à aller consulter un ostéo, un kiné. J'essaie de, tu vois, je ne prêche pas tant pour la paroisse, Morin Paroisse, qui est ostéo à fond. Parce que je pense que c'est pas la profession, c'est pas une profession qui va vous sortir de la merde ou qui va vous donner les clés les miracles. Mais c'est quelqu'un qui va avoir les compétences clés à un moment donné, à un instant T, par rapport à votre personne. Donc ça peut être un kiné, ça peut être un ostéo, ça peut être peut-être un éthiopathe, par exemple, je connais pas bien. Mais quelqu'un qui va vous comprendre et... Voilà, faites selon cette affinité-là. Mais, je peux dire, si vous êtes curieux, allez consulter, ça coûte rien. Si vous avez des assurances, ça ne coûte pas grand-chose, de toute façon, pour votre bien. Est-ce que tu es obligé? Non, tu n'es pas obligé, mais c'est comme pour tout. Après, ça dépend de la problématique. Si tu n'as pas de douleur et que tu es juste curieux, ben fais-le, fais pas, c'est toi qui vas, mon grand, tu vois. Enfin, je parle pas à toi, hein. je parle comme si quelqu'un posait la question.
J'ai compris.
Mais si à un moment donné, par exemple, t'as une douleur que t'arrives pas à la faire passer, ou alors que tu trouves que t'as une mauvaise posture et que malgré ton travail, t'arrives pas complètement à corriger le truc, et que ça fait quelques semaines que t'essaies, ou alors que tu trouves pas les bonnes réponses, ben oui, va consulter. Enfin, on est presque plus dans le bon sens que dans la réflexion métaphysique, quoi.
Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peur de l'ostéopathe? Notamment, c'est souvent des femmes en général qui ont peur du côté « je fais craquer les personnes, je les plie en deux, je les retourne, alors je fais du mal, tu vois. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. J'adore l'ostéopathe, mon ostéo est super, et pas du tout dans le craquage, au contraire, plus sur les points de pression en général, plus qu'autre chose. Mais souvent, on a cette image-là de l'ostéo qui fait presque du mal en faisant craquer. Et des personnes faibles, typiquement ma grand-mère, a peur de l'ostéopathe.
Ouais, bah alors il faut savoir pourquoi on a peur, comme tu l'as dit. Si le problème c'est, si la peur sous-jacente c'est j'ai pas envie qu'il me fasse craquer parce que j'ai peur qu'il me casse, ou alors j'aime pas ça. Déjà faut savoir un truc, c'est que si tu vas voir l'ostéo, tu peux l'appeler et puis tu peux lui demander, tu peux lui dire voilà, moi j'aime pas ça, est-ce que vous faites que ça ou est-ce que vous travaillez différemment? Déjà, rien ne n'empêche de poser la question. Ensuite, des ostéos, il y en a de plus. Alors, je reviendrai sur le craquage et sur le fait que ça craque et pourquoi et puis en quoi faut pas avoir peur après. Mais juste avant ça, je tiens à préciser que des ostéos, il y en a plein et qu'il y a autant de méthodes, il y a autant de façons de pratiquer qu'il y a d'ostéos. Parce que l'ostéo ou toutes ces thérapies qui sont globalisantes et manuelles se basent énormément de un sur les connaissances qu'on a apprises théoriques, mais aussi sur toute l'expérimentation, sur les outils qu'on utilise, sur les formations complémentaires, sur les affinités. Enfin, si tu veux, il y a tellement de paramètres qui forgent la façon de travailler de quelqu'un qu'il n'y a pas juste ce qui craquent et ceux qui ne craquent pas. Il y en a énormément. Donc, on peut aller voir des ostéos sans forcément se dire « il va forcément me faire craquer ». Il y en a qui adorent les techniques douces, il y en a qui adorent les techniques crack, etc. Donc, si le problème c'est ça, sachez que ce n'est pas un obstacle. Il y a plein d'ostéos qui ne font pas craquer. Maintenant, pourquoi on peut... Alors, attends, juste pour ta grand-mère, par exemple, il suffit de prendre... Non, mais c'est... Ou quelqu'un qui a peur, ou une femme... Je ne sais pas si les femmes ont plus peur de se faire craquer. Moi, ce n'est pas ce que je vois dans...
En tout cas, dans mon entourage, c'est ce que j'ai comme écho.
Voilà,
ok. Après, ça reste que mon entourage, hein. Ça reste assez minime comme échantillon, mais
okay.
C'est ce que j'ai moi, en tout cas, comme écho.
Eh bien, tous ceux qui ont peur, déjà de 1, on a peur parce qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. Donc, je vais expliquer à la suite pourquoi et peut-être qu'elles auront moins peur. Mais néanmoins, si elles ont très peur, il suffit d'aller regarder sur les sites, d'aller téléphoner, d'aller demander. Si la personne ne fait pas de technique de crack, voilà, le problème est résolu. La peur n'a plus lieu d'être. Maintenant, pourquoi on a peur de ça ? Parce que, alors pourquoi on a peur ça ? C'est, je vais avoir des difficultés à expliquer. L'effet crack, on a l'impression qu'on peut peut-être avoir peur qu'on se fait craquer, le sentiment de perdre le contrôle sur son corps et que quelqu'un va jouer comme ça avec sa tête ou avec ses organes ou avec quoi que ce soit et puis que ça va casser. C'est un manque de confiance aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui... Ben, pas plus tard que... on est quoi, là, vendredi ? C'était, je crois, hier ? C'était hier. Hier matin, j'étais en consultation et il y a quelqu'un qui n'aimait pas du tout se faire craquer, par exemple. Mais ne me l'a pas dit. Et moi, j'ai fait ma consultation et à un moment donné, j'avais besoin d'utiliser une technique manipulative qui fait craquer, par exemple. Elle n'aime pas ça, mais elle n'a pas eu peur. Je lui dis, est-ce que tu as eu peur ? Non. Parce qu'en fait... parce que je pense à plein de trucs, donc je me suis perdu dans l'explication. Mais il y a la peur et le fait de ne pas... Et voilà, et c'est un truc de confiance, en fait. Et là, voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est que la personne n'aime pas ça, et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas me faire craquer. Si je vais chez l'ostéo, j'aime pas ça. Mais par contre, cette personne, elle avait confiance sur la table et... Donc, elle s'est laissée, elle avait pas peur, elle aimait juste pas ça, tu vois. Bon, bah, au-delà de ça, il faut savoir un truc, c'est que les techniques qui font craquer, ce sont des techniques dites HVBA, en ostéo ou peut-être en chiro ou dans des techniques manuelles, ce sont des techniques à haute vélocité, basse amplitude. Ça veut dire que on va aller vite dans la technique, mais on va garder une amplitude basse. Ça veut dire qu'on ne dépasse jamais la barrière anatomique, ni même la barrière physiologique de l'articulation. Donc, le risque, je ne veux pas dire qu'il y a le risque zéro, parce que le risque zéro, il n'existe pas, mais le risque tend vers zéro sur la blessure. On ne va pas blesser quelqu'un, on ne va pas handicaper quelqu'un, parce qu'on reste sur des amplitudes contrôlées sur la technique, et que le crack est simplement une conséquence. On va imprimer sur un mouvement soit une rotation, soit une extension, soit une flexion, soit une inclinaison. Ça dépend du paramètre qu'on veut amener. Mais on va aller très vite pour amener une information neurologique. Et ce mouvement rapide va faire que dans l'articulation, il va y avoir une petite pression, puisque on va très vite, et il y a de l'air qui se dégage, et ça crée le crack, ça crée le bruit. Tu vois ? Donc le crack est une conséquence d'une technique manipulative rapide à basse amplitude. C'est... dans l'imaginaire de se dire je craque donc je débloque, genre comme si tu vois on prend une planche de bois et on y va très fort et la planche elle craque et puis elle casse. C'est pas du tout ça qui se passe, mais si tu veux par le bruit et par l'inconscient on a l'impression que c'est ça qui se passe. Donc
du coup le bruit peut faire peur, ouais.
Voilà, si tu veux faut pas avoir peur, ça fait pas mal. Une technique manipulative HVBA ne fait pas mal, elle reste dans des barrières physiologiques anatomiques, donc il n'y a quasiment aucun risque. Je dis quasiment parce que c'est comme quand tu donnes des médicaments, en fait. Le médecin, il ne dira jamais, il n'y a aucun risque de prendre... Le risque zéro n'existe pas, on ne sait pas comment le corps peut réagir, mais il y a beaucoup moins d'accidents sur des techniques manipulatives de ostéo que sur des traitements médicamenteux autres, tu vois. Donc la peur, il faut la comprendre, il faut se dire ok, et puis il faut la rationaliser. Bon, peut-être que les gens ils comprendront un petit peu mieux pourquoi ça craque, mais que néanmoins, ils n'aiment pas ça. Mais c'est une question de confiance aussi. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui, comme je te dis, qui viennent me voir, et puis pourtant qui ont confiance. Et puis de temps en temps, ben, je dois utiliser une technique manipulative. Ils sont là, ah, j'aime pas ça, mais je te fais confiance, je sais que ça en a besoin, et puis je me sens mieux après. Tu vois, donc... Et puis si vous aimez, si vous voulez vraiment pas vous faire craquer, ben, voilà, comme j'ai dit, il y a plein d'ostéos qui font pas craquer, quoi.
Ça marche. On a beaucoup parlé ensemble de Christophe Thériault jusqu'à présent, de différentes techniques et autres. Qu'est-ce que tu penses d'un grand acteur aussi du marché qui est Major Mouvement ?
Je connais pas, c'est qui lui?
De mémoire. Non,
je plaisante.
C'est l'ostéostar un peu francophone, on va dire.
Il est pas ostéo en plus. Hein.
Un peu tuto. Il est pas ostéo.
Non, il est pas ostéo.
Parce que je suis très peu son travail,
ouais.
Donc.
Il est kinésithérapeute.
Il est boulanger.
Et il est charcutier. il est kiné et il pratique la thérapie manuelle. Voilà. Donc pour moi c'est pas que c'est de l'ostéo, mais bon, je veux dire, on jongle avec les mots pour à peu près les mêmes choses, grosso modo.
On s'approche un peu du même domaine, en tout cas.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux que je crache sur lui ou pas? C'est ça que tu veux?
Non, pas du tout. Non, justement, on parlait un peu justement de l'exercice à faire au quotidien. Je sais que lui en propose beaucoup. Il a même sorti un livre sur ça. Est-ce que c'est typiquement une source vers laquelle je peux orienter mes auditeurs? Pour un peu un côté visuel des choses à faire au quotidien, pour justement enlever la douleur au dos, pour retrouver une bonne position des épaules, etc.
Alors,
est-ce que tu conseilles en tout cas ses vidéos et son travail? Si je résume.
Je n'ai pas lu son livre, je n'ai pas eu l'occasion d'y mettre la main dessus encore. Par contre, j'avais discuté avec Amandine Léger sur le podcast. Elle avait lu son livre et puis on en avait discuté, elle avait dit qu'il était très bien. Ce que je n'en doute pas une seconde. Donc sur son bouquin spécifiquement, je ne peux pas donner un avis. Par contre, sur ce qu'il fait, sur ses vidéos, j'ai rien à dire, quoi. Je veux dire, c'est très bien. Allez regarder ce qu'il fait, ça va vous donner de bonnes idées d'étirement, en plus il donne des explications parfois qui expliquent un peu l'anatomie, la physiologie, qui sont intéressantes. Ça m'arrive de temps en temps de regarder ces vidéos parce que je les trouve même pour moi-même intéressantes. C'est des piqûres de rappel sur certaines choses. Donc ouais, allez-y les yeux fermés. Tu vois, c'est un peu la mode d'aller cracher ou d'aller discréditer ceux qui ont réussi en tout cas sur les réseaux, parce que lui il a c'est un
ceux qui se montrent en tout cas,
ouais. Lui c'est un gros influenceur dans la thématique, oui, de la santé et de la kiné, donc en fait oui, il y aurait des petits trucs à dire, mais moi j'aimerais beaucoup l'avoir sur le podcast aussi parce que j'adorerais avoir cette conversation avec lui, et puis je pense qu'il y aurait quelques petits trucs qu'on rentrerait un tout petit peu en débat sans non plus aller très loin, mais au-delà de ça, en fait, je veux dire, allez-y à 100%, ce qu'il dit, c'est super bien. Il donne de très bons conseils pour la posture, pour s'étirer, pour améliorer sa capacité de mouvement lorsqu'on est trop longtemps au bureau, par exemple. Allez-y, les yeux fermés. Sur son livre, je sais pas, mais sur ses vidéos, de ce que j'ai vu, ouais. Ah non, c'est très bien ce qu'il fait.
Pour les gens qui veulent un côté plus visuel des explications qu'on essaie de donner tant bien que mal ensemble sur les mouvements à faire, allez sur la chaîne de Major Mouvement. Je mettrai un lien, du coup, en ressources sur le podcast. Et du coup, question également que je vais te poser, je voulais aborder ça avec toi, on a encore un peu de temps, c'est bon pour toi?
Ah oui, non, mais tu sais, moi quand je fais ces podcasts, tu sais, mes podcasts font jusqu'à 3 heures, hein, donc quand je pars sur un enregistrement, que ce soit pour le mien ou pour ceux des autres, en général, je me prends, j'ai la matinée, c'est férié ici aujourd'hui de toute façon, donc je suis large.
Moi je suis un peu sur un délai un peu plus court, plus 3 quarts d'heure, 1 heure sur un échange, donc on est déjà avec 50 minutes ensemble, d'après ce que je vois.
Je suis bavard, putain.
Donc je vais te demander, mais c'est très bien, c'est très très bien. Je vais parler de toi, de tout ce qui était accessoire pour mieux se tenir au boulot et au bureau. Typiquement, moi j'ai, alors tu vois pas parce que je suis assis dessus, mais j'ai un espèce de coussin au niveau de mes lombaires, toi, pour me redresser quand je suis assis.
Heureusement que tu m'as dit ça, je commence à m'inquiéter quand tu m'as dit j'ai un accessoire, je suis assis dessus, tu peux pas le voir.
Non, c'est un coussin. Attends, j'essaie de le mettre un peu, voilà, en évidence, je sais pas si tu le vois là.
Non, ouais.
Mais qui épouse un peu la forme du dos, okay. Toi, qui sert en fait justement à éviter de s'avachir sur le fauteuil. C'est plus un rappel, toi, pour dire tu te tiens bien droit, parce que si je suis comme ça, ça me fait mal, ça me gêne.
Ça te sert davantage de rappel plus que
c'est
de.
Plus un rappel, effectivement, ouais. Parce que si je m'avachis, effectivement, ça me tape le dos et c'est pas du tout agréable.
En fait, quoi. Ça t'amène le dos, ça t'arrondit le bas du dos.
Ouais, ça me force à avoir une bonne posture droite, en tout cas au quotidien. Des fois, je t'avoue, j'arrive à m'affaisser un peu dessus, mais généralement, quand même, c'est un bon rappel pour moi de me tenir bien droit quand je suis assis.
Mais ça, c'est une bonne idée. Par exemple, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai découvert. Alors, c'est quand? Parce que les ostéos, tu vois, ils ont fait des études, ils vont des consultations, mais des fois, ils découvrent des petits trucs. C'est que quand j'ai pris l'avion, il y a 2 ou 3 ans, il y avait des coussins dans l'avion et je l'ai mis tout en bas parce que les sièges d'avion sont mal faits en général. Et donc, je l'ai mis tout en bas du dos. Mmh. Et en fait, ça m'a permis de redresser ma posture. Et puis, depuis, ça m'arrive de dire, bah, tiens, prenez une serviette, roulez-la. Et puis, lorsque vous êtes assis au bureau, mettez-vous bien au fond de la chaise, et puis passer la serviette en bas du dos, ça va vous permettre d'avoir déjà un maintien qui va vous permettre de redresser un peu, de cambrer légèrement le bas du dos. Ça va pas cambrer, mais ça va rester droit. Et puis, si ça le fait pas d'un point de vue physique, mécanique, ça va vous donner un rappel de vous tenir droit. Donc, Ça me semble être une bonne chose.
Donc ça, c'est un bon accessoire, ça. Ok, d'accord. Sachant que ça coûte, je crois, 30 euros sur Amazon, à tout casser.
Attention, hein, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est le principe qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce qui permet de redresser le dos, ça ne me paraît pas. Et de toute façon, testez. Voilà, ne vous faites pas avoir par les pubs à la con que vous pouvez voir un petit peu partout. Il y a des trucs, c'est vraiment de n'importe quoi. Mais demandez, puis testez. Petit truc comme ça, ça peut faire une petite différence. Ouais.
Ensuite, autre élément dans lequel j'aimerais investir quand je vais déménager, ça serait un bureau assis debout. Pour justement être plus souvent debout que assis. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'en as un déjà pour commencer?
Non, moi j'en ai pas parce que là je suis dans un hôtel actuellement. Donc c'est pas un meuble. Mais
on est bien payé quand on est ostéo, hein. On vit dans un hôtel. C'est beau.
Ouais, c'est un petit hôtel Ritz, il y a marqué dessus, je sais pas ce que ça vaut.
Je connais pas trop.
C'est pas vrai pour ceux qui demandent. Ça me paraît bien ce truc, j'ai jamais testé personnellement, mais la raison pour laquelle je le conseille, c'est parce que ça va vous permettre d'alterner les positions et de ne pas rester toujours dans la même position. Et je pense que je suis pas le seul à le dire, de nombreuses personnes en disent du bien. Le fait de avoir un bureau qui s'élève, qui se baisse, en fait, on va passer de assis à debout. On change la position, je vais pas débattre 36 000 ans, mais j'ai pas testé moi-même, mais pour ces raisons-là, je le conseille.
Et même, c'est bête à dire, on l'a évoqué ensemble au début du podcast, rien que pour mettre l'ordinateur au niveau des yeux, c'est une très bonne chose.
Ouais, parce
qu'un bureau, du coup, impose sa taille, on peut régler la taille. Et là, c'est intéressant.
C'est ça, parce qu'il y a un truc qui est pas pris en compte rarement et dont on n'a pas trop parlé jusque-là, c'est l'ergonomie. En fait, de l'espace de travail. C'est le fait d'avoir les coudes, les avant-bras au niveau de la table, avec les coudes à 90 degrés qui sont la table dans l'axe à peu près.
Parce que sinon, ça hausse les épaules du coup.
Ouais.
Et donc les trapèzes.
Exactement. Donc ça met des tensions dans le haut des épaules. C'est d'avoir à peu près l'écran à 30 degrés en bas. Donc moi, je l'ai un petit peu bas. Faudrait qu'il soit ici, tu vois.
J'ai un double écran du coup. Je te regarde dessus du bas, mais j'ai un écran en face des yeux au-dessus.
Ah oui, bah toi c'est.
Pour compenser ce problème-là, sans se mal à la nuque, effectivement, parce que t'es la tête baissée toute la journée.
Ça c'est pas mal, ouais. Ça, d'être bien assise au fond de sa chaise, ne pas être. Soit assis au fond avec un espèce de coussin à l'arrière qui va permettre de redresser un peu les lombaires pour pas être affaissé comme tu le disais, ou alors être sur la moitié avant de la chaise et qui va permettre, tu vois, le fait de. Très difficile à expliquer en podcast, mais soyez sur l'avant de chaise, sur vos fessiers, et essayez d'avoir la hauteur de la chaise qui fait en sorte que vous ayez les genoux à 90 degrés avec les pieds posés à plat. Si vous n'arrivez pas à avoir les pieds posés à plat avec les genoux à 90 parce que la chaise est trop haute et que, par exemple, les pieds pendent en bas, mettons, c'est d'essayer de mettre un support sous les pieds pour essayer de garder ce 90 degrés. Ça, c'est des petits conseils de base. Et alors, à partir de là, avoir un bureau qui monte et qui descend, c'est pas mal parce que ça permet, une fois qu'on a réglé la chaise par rapport au sol et par rapport à sa taille, de pouvoir régler le bureau pour que tout ça s'aligne, quoi. Bon, allez regarder, tapez sur internet ou je sais pas si toi t'as des ressources sur ergonomie, bureau, etc. Vous allez trouver de bons trucs, mais voilà, quelques petites idées pour améliorer l'espace de travail.
Également, j'ai mon ostéopathe qui a un espèce de fauteuil où il est à genoux dessus. Est-ce que tu connais ça?
Alors attends, parce que là, je crois que c'est très drôle. Qui est ton ostéo?
Ah non, c'est impossible que tu connaisses. C'est Benjamin Grillon, je crois.
Ah, dommage, parce que je crois, j'avais une collègue ici qui... alors peut-être que, excuse-moi, je confonds, hein, je pars dans ma tête, mais j'avais une collègue...
C'est un très bon ostéopathe.
J'avais une collègue, Masso, qui travaillait avec un ostéo en France, qui justement avait créé un prototype de nouveau fauteuil comme ça. Pour le coup, c'est pas exactement la même. Mais je vois de quoi tu parles, parce que j'ai déjà vu des gens avec ce truc-là. Je n'ai aucune idée, je crois que j'avais essayé une fois, mais je me rappelle plus les sensations que ça fait, et je n'ai aucune idée d'avoir les genoux... posé sur un espèce de support.
Je vois l'intérêt du coup de mon côté pour tout ce qui est fixeur des hanches, du coup, parce que ça crée plus une hypertension qu'un raccourcissement.
Ok.
Sauf erreur de ma part, mais à part ça, je vois pas trop. S'il n'y a pas de dossier par contre.
Donc forcément, je sais pas. Franchement, je peux pas donner d'avis. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout.
Et pour rester un peu sur la position assise, le côté un peu Swiss ball, medicine ball, t'en penses quoi justement? Être assis dessus plutôt qu'avoir un siège normal de bureau pour favoriser un peu le gainage, l'instabilité,
tout ce qui est transverse aussi. Voilà, t'as tout dit, hein, c'est travailler un peu le transverse pendant qu'on fait autre chose. Moi, je recommanderais d'alterner entre la chaise et la Swiss Ball, parce que si on passe de l'un à l'autre d'un coup, on va vite trouver ça. On va peut-être s'en dégoûter, parce qu'effectivement, il faut garder un gainage, il faut garder un équilibre. Et à un moment donné, on peut dire, bon, putain, ça m'emmerde ce truc, je le vire et je prends la chaise parce qu'il faut que je me concentre. Donc, le but, c'est pas d'en arriver là. Donc, peut-être un Swiss Ball de temps en temps, là, une heure dans la journée, tester, ou alors toutes les X heures, se mettre sur la Swiss Ball. Ça va permettre un peu de travailler les muscles profonds du gainage et de la posture, de manière soft, en faisant autre chose, sans que ça demande trop de concentration et de focus.
On peut très bien se dire, grosso modo, que la chaise est réservée aux tâches vraiment cognitives et fatigantes, et que la Swiss Ball pour traitement des emails, les tâches créatives et j'en passe.
Eh ben, c'est pas con, ça.
Ça peut être une solution.
Ouais, c'est pas con.
Après, il faut y penser, forcément. Il faut penser à changer un peu tout ça, mais limite, il faut avoir deux bureaux, presque, c'est l'idéal. Le bureau créatif et le bureau, on va dire, concentration, et tu changes chaque fois quand tu as besoin de faire tes tâches.
Non, mais c'est pas con, tu vois. À un moment donné, j'avais pensé, je l'ai pas fait parce que j'en ai pas trouvé le besoin, mais sur ces trucs cognitifs où tu switches d'un endroit à l'autre, moi, déjà, je suis pas, alors j'ai une table ronde là où je suis, mais je me mets pas du même côté. Oui, non, mais je me mets pas du même côté que je travaille ou que je mange, par exemple, ou que je fais autre chose, tu vois. C'est-à-dire que là, je suis orienté, j'ai la fenêtre ici là, donc j'ai la lumière. Je fais exprès de me créer de l'espace devant moi. Ça, c'est les petits tips de pas de productivité mais d'ergonomie productive. Je fais exprès d'avoir de l'espace devant moi et d'avoir la lumière qui vient en face lorsque je travaille. C'est ma position et je me mets de l'autre côté de la table à 90 quand c'est pour manger ou quand c'est pour faire autre chose, tu vois. C'est-à-dire que je me conditionne mon cerveau. Donc tu peux aussi te conditionner sur les tâches que tu fais. Et oui, alors c'est ça que je voulais dire, c'est que je voulais me créer deux sessions de travail sur mon ordinateur, tu vois, une session spéciale quand je travaille et puis fermer cette session à partir de 20-21h pour lorsque je veux regarder des films, séries ou que je veux faire autre chose mais qui n'ont plus rien à voir avec soit les mails, soit le... parce que je suis ostéo mais je fais d'autres choses aussi, j'ai d'autres projets sur lesquels je bosse. Donc je fais pas mal d'ordinateurs et je voulais avoir une session uniquement dédiée au divertissement à partir d'une certaine heure et puis avoir plus aucun accès au travail. Finalement, je l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé d'intérêt, mais c'est pour donner l'exemple de c'est intéressant d'avoir ces trucs là, d'avoir ces process, ces façons de faire et puis d'être sur une chaise pour des trucs avec une tâche cognitive importante et d'être sur un Swiss Ball sur des trucs qui sont un petit peu plus légers, mais je pense que t'en parles très bien toi de tout ça de toute façon.
Non, je vois ce que tu veux dire, effectivement, pour le côté avoir un espace devant soi. Beaucoup de personnes pensent et mettent en avant le fait que plus on voit loin, plus on stimule le cerveau, donc la créativité, la productivité. Et plus on a face à soi un mur blanc très proche, plus on va limiter justement ce côté productif et créatif. Mm. Donc je vois ce que tu veux dire. Après, pour les deux sessions, il y a Stanislas Selou, je pense que tu connais, de Marketing Mania, qui, je crois de mémoire, avait fait une interview il y a quelques années en arrière, où il met en avant qu'il avait deux ordinateurs, lui. Un vieil ordinateur qui ramait comme pas possible.
Oui, probablement.
Qui l'empêchait de travailler justement, de monter des vidéos et d'être un peu productif et actif. Et un ordinateur un peu une bête de compétition pour bosser.
Ouais.
Et du coup, il changeait d'ordinateur entre temps, tu vois.
Mmh. Ouais, non, mais c'est pas con. Après, je pense que c'est pour ceux qui bossent beaucoup, qui bossent beaucoup et qui ont besoin de ces.
Sur ordinateur, surtout.
Ouais, de ces frontières, de se mettre ces blocages. Ça dépend à quel niveau tu en es peut-être de ton activité. Si t'es sur un lancement, tu lances ton activité ou que t'es en plein développement. Ben, en général, faut charbonner. Moi, je sais que je suis dans une phase où je ne, si tu veux, peu importe l'heure qu'il est, moi, dès que j'ai du temps, boum, tu vois, je travaille. Mais quand t'arrives à un certain stade, ça peut être intéressant de commencer à se mettre des boundaries comme ça, des frontières.
Moi, typiquement, je bossais assez tard, jusqu'à il y a quelques mois en arrière. Je dirais, j'ai mis un bloqueur sur l'ordinateur pour couper l'ordinateur à une heure précise. Je peux plus rien faire. Automatiquement, il se coupe et je peux plus le réactiver. Et si je veux jamais réactiver le bloqueur, je dois payer de l'argent directement.
Et c'est
assez violent.
Et alors, il y a dans ce sens-là, et puis il y a dans le sens inverse aussi, j'ai entendu récemment que je ne sais plus quel écrivain se mettait dans une pièce fermée à clé, il n'avait accès à absolument rien sauf de quoi écrire, et puis qu'il n'avait pas le droit de sortir de cette pièce avant X heures, et qu'il n'y avait absolument rien d'autre à faire que d'écrire pour écrire ses lignes. Tu sais, il y a l'idée de se dire « je m'empêche de travailler », et puis l'idée de se dire « je m'empêche tous les divertissements pour rester que dans mon travail aussi ».
Justement, le bloqueur aussi empêche les divertissements parce que ça bloque les sites, ça bloque tous tes emails, tout ce que tu veux. En fait, tu sélectionnes au préalable les sites que tu veux bloquer. Tu le lances, bien le programme à l'avance tous les jours et automatiquement ça te bloque tout.
Ok, alors faudrait le faire avec le téléphone aussi, parce que
Je sais pas si elle va sur le téléphone. En tout cas, ce que faisait Antonin Archer du podcast Nouvelle École, c'est un vieux podcast qui a été arrêté depuis, c'est qu'il mettait lui son téléphone portable dans une boîte à gâteaux. qui était programmé pour rester fermé pendant X heures.
Ouais, voilà, bon, ben, on est dans les mêmes principes.
C'est pas mal aussi, toi. Ouais. Après, t'as aussi une application qui est pas mal, qui s'appelle Forest, je crois, de mémoire. Donc, forêt en anglais avec mon très bel accent. Où, en fait, tu vas bosser par Pomodoro. Donc, par 30 minutes, 45, 1 heure ou autre. Et durant le temps qui s'écoule, t'as un arbre qui se plante, virtuel. Et si tu coupes avant, l'arbre, il meurt. Et du coup, ça pourrit ta forêt.
Ok.
Et vu que le cerveau aime bien les choses bien faites et belles, du coup, ça t'empêche de quitter l'application, toi. Mmh. Et donc, de prendre ton téléphone pour répondre à un appel ou à un message. Mmh. Il y a plein de choses.
C'est hyper intéressant. Mais de toute façon, c'est le cerveau. En fait, le but, c'est de lui enlever le choix. Parce que quand il a le choix, il a plus la tendance à prendre le choix le plus simple. Et à savoir, soit travailler et faire une tâche compliquée, ouais. Soit aller scroller sur Facebook. Donc, le fait de lui enlever le choix, il n'y a plus de choix. Et ça, c'est dans plein de domaines. Hein. Je veux dire, on pourra en reparler en privé, mais c'est dans plein de domaines. Et un autre truc aussi. Merde, j'ai oublié. Je te laisse continuer.
Pour préciser ce que tu dis, en fait, le cerveau, c'est pas la chose la plus simple qui intéresse, c'est la chose avec la récompense immédiate la plus rapide.
Oui, voilà. Oui, oui. Et
donc, quand tu bosses sur un projet à long terme à côté de Facebook qui te propose une notification, forcément, Facebook est plus intéressant parce que ça crée de la dopamine dans ton cerveau.
Ouais, la gratification est immédiate.
Oh yes.
Mais à court terme, parce que bon, à long terme, ça t'apporte pas grand chose. Et sur le fait de tuer l'arbre, c'est pas mal. Il y a des méthodes qui marchent bien. Par exemple, lorsque vous pratiquez une activité, lorsque vous essayez de créer une routine, c'est de l'écrire dans un calendrier à chaque fois, ou alors de mettre une barre. Et plus il va y en avoir, plus on va avoir de la difficulté mentale de casser cet enchaînement. Par exemple, tu dis, ben, je fais X jours de méditation, je fais X jours de sport, et de le faire un petit peu tous les jours. Et on va pas avoir envie de casser ce bon enchaînement. Donc on va avoir envie de continuer pour perdurer ce cycle. Et plus le cycle est long, plus on a envie de faire perdurer ce cycle. Donc ça peut.
Bah typiquement, c'est comme ça que Snapchat a fonctionné au début. Parce qu'au fur et à mesure, tu envoyais des photos à quelqu'un. Tous les jours, si tu en envoyais, tu avais un compteur qui se mettait en place. Et du coup, tu voulais plus arrêter l'envoi.
Ok.
Pour ne pas briser le compteur. Et moi, j'ai une application qui s'appelle Peak que je vais te montrer à l'écran. Hop, juste ici. Où je suis à 203 jours de suite. Pour le même principe. Là, si je ronds, toi, je me tire une balle, j'ai plus envie.
T'as pas envie, quoi.
Là, c'est terrible. Je suis à plus de 200 jours, j'ai quasiment un an d'entraînement quotidien pour booster mon cerveau, parce que c'est une application qui sert à booster le cerveau. Et je le fais tous les jours sans faute. Comme pour mes siestes. Je fais une sieste tous les jours.
Ouais.
Parce que je le mets pareil dans un calendrier, comme tu le dis, et je veux pas rompre la chaîne. C'est inconcevable pour moi, toi.
Ouais.
Donc, c'est une très bonne stratégie aussi pour le faire.
Chose, hein.
Et du coup, on peut l'appliquer aux étirements, à la marche, à les respirations et à l'exercice physique.
Ouais,
pour reboucler un peu le sujet principal.
Ouais, c'est ça. Et puis, je suis pas un expert des habitudes, mais voilà, les habitudes, faut les créer. Ça prend un peu de temps. Faut avoir une bonne méthode, un bon truc, ça soit pas trop compliqué. L'intégrer à notre habitude. Et puis, petit à petit, on va améliorer sa posture et on va se sentir mieux.
Avec la boucle DECR, dont je parle assez souvent, avec du coup le déclencheur, qui est l'élément qui va te faire prendre l'habitude. En tout cas, qui va la faire démarrer plutôt. Ensuite, t'as le comportement qui est généré. Ensuite, le DEC, t'as le. L'envie déjà avant, après le comportement, après la récompense.
Okay.
Effectivement, comme tu le dis, une habitude s'ancre sur une ancienne habitude. Comme ça, on l'a fait dans la continuité. Et le mieux, c'est faire ça par une habitude qui est souvent inscrite. Typiquement, le fait de prendre un transport en commun, c'est une habitude quand même qui est ancrée dans le temps et sur laquelle on peut falquer et calquer une autre habitude.
Mmh. Mmh.
Donc voilà, on a un peu dévié, mais effectivement, on se met en place des sessions de Pomodoro pour reboucler avec le sujet principal et que toutes les 35 minutes, on fait un peu d'étirement. Et ben on va créer une habitude assez rapidement. Et si en plus on le met sur un calendrier, comme tu le dis, factuellement au mur avec des croix à chaque fois qu'on le fait, et ben on peut être sûr que dans 3 mois, on continue à s'étirer tous les jours et que ça fait du bien encore à l'oxygénation et donc à la cognition, au cerveau et à la santé.
Exactement, ouais. Non, c'est. J'ai pas grand chose à rajouter. À la limite, je vais donner peut-être 3 conseils concrets d'étirement ou de choses à faire. Les gens pourront aller regarder sur Google. Mais là, j'y pense. Je me dis, tiens, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a des choses simples qu'on a dit, d'autres qui sont un peu plus complexes. Mais peut-être qu'à la sortie du podcast, ils n'auront pas un truc précis. Et je me dis, tiens, pourquoi pas donner un truc précis? Donc, étirement des psoas. Allez regarder sur. Taper sur Google, étirement des psoas. Voilà. C'est vraiment. Je vais donner 3 choses qu'il est bien de faire, peut-être toutes les heures.
Tu fais comment ça? Tu te mets assis par terre? Tu croises tes jambes? Tu mets ta jambe sur ton genou?
Enfante. Enfante avant, le genou qu'on veut étirer au sol et on avance progressivement le corps pour amener le genou en arrière de la hanche en essayant de garder le dos droit. Mais allez taper étirement des psoas sur Google, vous allez trouver des étirements. Vous pouvez faire ça pendant une 30aine de secondes. L'exercice de respiration, comme je l'ai donné, c'est-à-dire que vous, Alors avant, peut-être l'extension thoracique, ça peut être pas mal. Vous levez, vous étirez au maximum, vous essayez de d'amener le dos en extension le plus possible.
Tu rapproches les omoplates.
Tu peux rapprocher les omoplates, ouvrir la, essayer de sortir la cage thoracique au maximum. Des fois, il y a le au milieu du dos, il peut y avoir, ça peut craquer. Hein. Ça, c'est encore une fois, c'est juste de l'air qui se libère entre les articulaires. Ça, ça peut être pas mal. Les bras sur le côté, en essayant d'aller chercher loin derrière, comme ça, ça active les rhomboïdes, les trapèzes moyens et puis les rotateurs externes. Se suspendre à une barre fixe ou à un cadre de porte pour venir étirer tout le grand dorsal. Et puis, exercice de respiration. Voilà, quatre choses, quatre exemples de choses qu'on peut faire toutes les heures, par exemple.
Et j'ajouterai en plus le mouvement des yeux aussi à droite à gauche. Parce que le problème de l'écran, c'est qu'on regarde qui est très fixe. Et du coup, on perd l'utilisation des bâtonnets sur le côté.
Alors, je suis pas expert là-dedans, donc je vais pas pouvoir rajouter, mais ça me semble... Je peux pas rajouter plus d'explications sur ça, mais ça me semble très bien.
Ça, on le verra sur un futur interview avec Pierre Dufresne, qui en parlera beaucoup avec moi sur le podcast, effectivement, comme quoi, rien que prendre une mine d'un stylo et puis la suivre sur le côté, au moins ton regard n'est plus fixe sur un point fixe qu'est l'ordinateur. Et du coup, ça fait du bien. Ça prend 30 secondes, mais ça peut réellement changer la vie aussi.
Ah ben, ça me paraît bien, ça.
Donc voilà, bon, en tout cas, c'était un super échange, j'ai rien à rajouter. As-tu des choses toi à ajouter en plus par rapport à tout ce qu'on a dit? Donc si on résume grosso modo, c'est quoi? C'est travailler, forcément c'est quand même la base au quotidien aujourd'hui. Et à minima, je dirais deux fois par jour, essayer de s'étirer. Alors, soit avec un élastique, soit avec ce que tu as donné comme exercice.
Ouais.
Faire un peu de marche d'or aussi, et un peu d'activité pour justement arrêter les effets négatifs de la position assise.
Voilà, alors toute première chose à mettre en place, c'est changer votre position de travail, votre lieu de travail. Si vous avez un bureau qui se lève, régulièrement changer. Si vous pouvez changer d'endroit, si vous passez d'une table à un autre endroit, essayez de modifier votre place de travail si c'est possible. Comme ça, vous allez pas rester toujours dans la même position au même endroit. Faites des pauses, levez-vous. Allez, servez-vous un café ou décaféiné ou un thé ou allez boire un verre d'eau. Faites des pauses régulièrement. Évitez de rester pendant 3 heures trop longtemps dans le même endroit. Ouais. Et puis, le niveau suivant, c'est faire les petits exercices qu'on a donnés. Ça peut aider. Et puis, faites une vraie pause. À un moment donné, lâchez tout, faites une vraie pause, allez marcher une heure. Marcher une heure, c'est bien, mais ça suffit pas en tant que tel. Mais je pense que là, on a déjà pas mal de trucs. Bougez régulièrement, faites ces petits exercices, allez marcher une heure. Et puis, si vous pouvez, faites un peu plus une vraie activité un petit peu plus intense.
Ouais.
Mais ça, c'est
en tout cas, marche une heure ne suffit pas pour la position. Mais c'est très bien pour l'exposition au soleil, pour la respiration, pour beaucoup de choses.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais j'ai l'impression, si tu veux, des fois, j'ai un peu du mal parce que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes avec des trucs comme ça, tellement ça me paraît évident. Mais effectivement, il faut le rappeler. Fallait marcher, c'est bien, l'exposition au soleil. Mais je ne sais pas quel niveau de conscience exactement ont les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Mais ça me paraît évident, mais tu as raison de le rappeler, quoi.
Mais même sur le niveau de conscience, que toi, comme moi, on le sait, et toi, tu prends l'ascenseur typiquement, et moi aussi, parfois, je le prends.
Oui.
Donc, l'escalier serait plus bénéfique à prendre. Même en le sachant, des fois, une piqûre de rappel est toujours intéressante parce que des fois, on l'oublie. Et on se dit, allez, une fois, je prends l'ascenseur. Sauf qu'une fois, ça devient 2, ça devient 3, ça devient 4, et on le prend toujours.
Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, de le rappeler, en fait, pour ceux qui écoutent. Mais si tu veux, toi, comme moi, on l'oublie, mais je veux dire, on fait du sport à côté, on s'entraîne. Moi, je m'entraîne 6 jours sur 7, je vais au sport, je fais du cardio, j'essaie de faire des mobilisations, j'ai tout mon circuit, mon programme d'entraînement. Toi aussi, donc, si tu veux, je sais que dans mon quotidien, ça change rien que je prenne l'ascenseur, en fait. Je veux dire, ça n'a aucun effet, ça me fait juste gagner du temps pour rentrer chez moi. Mais c'est vrai que, il faut peut-être le rappeler, le remettre en contexte pour ceux qui écoutent, qui ne font peut-être pas 6 jours sur 7 d'entraînement et qui n'ont peut-être pas cette conscience-là d'anatomie de leur corps, pour pas qu'ils disent « bon, mais ça change rien ». Ben, pour eux, ça change. Pour eux, ça fait une petite différence. Peut-être.
Et plutôt que de se dire d'entrée de jeu « je révolutionne ma vie », commencez par prendre l'escalier, par vous arrêter potentiellement un arrêt plus tôt en transport en commun pour finir le trajet à pied, etc.
Alors,
c'est pas une chose bête et simple au quotidien, je pense.
Ça, c'est une bonne idée, je trouve que c'est une bonne idée sur le papier, mais j'y crois pas une seule seconde sur l'application, sur le fait de s'arrêter un arrêt avant. Parce que, on va pas, parce que là, ça fait un moment qu'on discute et puis on peut digresser, mais.
Non, mais dis-moi, ça m'intéresse.
D'un point de vue pratique, et peut-être que je me trompe, hein, à la limite, les auditeurs qui fassent leur retour, hein, et je sais pas si t'as un endroit où ils peuvent laisser des commentaires, où ils peuvent interagir, ou t'envoyer directement leur avis, mais qui disent, qui donnent leur avis. Mais ça me semble très difficile à appliquer de s'arrêter un arrêt avant sur son transport en commun pour faire le reste à pied. J'y crois pas, parce que je pense que ça demande vraiment un effort psychologique, une détermination énorme d'être lancé en inertie dans son transport et de dire volontairement, je m'arrête avant alors que, attends, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est bon, je vais pas m'arrêter. Si tu veux, à mon avis, si t'es assez fort psychologiquement pour t'arrêter avant, t'es suffisamment fort pour te créer un super programme et faire du sport régulièrement tous les jours.
Ah, tu vois ce que je veux dire ? L'inverse. Tu commences par marcher jusqu'au prochain arrêt, après tu prends le bus.
Pourquoi pas ? Dites-nous. Dites-nous, tous ceux qui veulent tester ou quoi, aussi, dites-nous.
Après, faut voir. Il faut essayer dans tous les cas, essayer par vous-même, comme tu l'as dit, il faut être responsable de ses actes et de ses actions. Essayez et vous verrez quoi.
Ouais, non mais j'ai... Dans ce sens-là, pourquoi pas ? Peut-être.
Et pour conclure, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais quand on a échangé ensemble, il y a déjà peut-être 2 mois de ça, je dirais, la base, ouais, quasiment, tu avais un projet de création de programme, je crois. Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce que tu peux en parler ou pas du tout ?
Oui, si, je peux en parler. Mais pour l'instant, il est... Il est disponible, il est sorti.
Ah, super.
Effectivement, j'ai créé un programme de... Alors, c'est pour les douleurs d'épaule et pour ceux qui s'entraînent. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les gyms sont fermés, donc c'est un petit peu compliqué. En gros, c'est pour les sportifs qui s'entraînent régulièrement, qui font soit du street workout, soit de la musculation, soit tout ce qui est un entraînement sportif, qui ont des douleurs dans l'épaule. J'ai créé un programme étape par étape qui leur permet de trouver ce qui leur fait mal, parce que une des choses les plus importantes pour moi, c'est de comprendre ce qui fait mal, quelle est la structure en souffrance, et ensuite d'avoir des étapes à mettre en place, de l'identification de la douleur jusqu'à sa réutilisation totale. Donc il y a 4 modules, si je me souviens, parce que je l'ai fait, c'était le mois dernier. Donc un module qui permet d'identifier sa propre douleur dans l'épaule, un module qui permet de bien récupérer, de passer par une phase de récupération optimale, un module qui permet de réactiver certains muscles et de rééquilibrer l'architecture de l'épaule et sa mobilité, et un module qui permet de réactiver les muscles les zones qui étaient en souffrance auparavant avec un paramètre de progressivité de réactivation progressive, que je l'ai appelé, voilà, dans le module. Donc oui, non, d'accord. Si j'ai créé ça, c'est un programme digital en ligne que j'ai fait le mois dernier, que j'ai lancé et qui actuellement il est toujours disponible, mais pas au tarif de lancement, parce que le tarif de lancement c'était
bien sûr,
c'était je sais plus quand j'ai lancé, début du mois de mars. Voilà, donc il y a un mois, c'est ça. Donc j'ai ce programme-là. Écoute, on va peut-être pouvoir discuter en privé si on peut trouver, si je peux te donner un coupon de réduction spécifique pour tes auditeurs. Ouais. Faut que je regarde avec la plateforme par laquelle je passe, parce que je sais qu'à un moment donné, je voulais changer de plateforme pour être dans la capacité de faire quelque chose d'un petit peu mieux.
On en parlera après, si tu veux.
Mais on va en parler après.
Des conseils à donner par rapport aux plateformes.
S'il y a des auditeurs qui ont des douleurs à l'épaule, qui ont du mal un petit peu à s'en débarrasser, qui s'entraînent, qui voudraient s'entraîner convenablement, ou qui voudraient un petit peu améliorer la fonctionnalité de leur épaule avec des exercices de rééquilibrage, et voilà, qu'ils aillent regarder dans le lien.
Quand on connaît l'importance d'une épaule au quotidien, en tout cas on la connaît quand on perd en mobilité, c'est important d'en prendre soin.
Ouais. Donc j'ai essayé de faire un truc hyper complet. Je pense que ils auront vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Voilà.
Ça marche, ok. Eh bien, très bien, merci pour ce temps. Donc on a 1h13, donc 2 fois moins que tes épisodes à toi. Mais c'est déjà pas mal pour moi de mon côté.
Non, mais merci.
Et du coup, je te dis à très vite de l'autre côté du micro. Du coup, je serai donc pas intervieweur, mais interviewé.
Ouais, on se retrouve tous sur le podcast biomécanique pour en connaître plus sur Jérémy de fond en comble et toutes les techniques de pour améliorer un peu son cerveau et tout ça. Moi, je suis hyper curieux, donc.
Avec grand plaisir, ça marche. Passe une belle journée et puis à très vite.
Merci, toi aussi, à bientôt.
Ciao, salut. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé, tout comme moi, il m'a intéressé. Cet échange a été passionnant avec Jérôme et je pense que vous allez vous en ressortir avec beaucoup d'exercices, beaucoup d'éléments, beaucoup de stratégies à mettre en place au quotidien, sur un laps de temps assez court, car encore une fois, le but est de faire ça un peu tous les jours, pour améliorer votre posture, votre position et donc de fait, par voie de conséquence, vos compétences cognitives et vos performances mentales. Voilà, maintenant je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel interview, l'interview de 3 spécialistes de la posture et même encore plus de la neuroposturologie. À très vite.